notre bêtise et que nous soyons émerveillés, surpris par ton amour, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. Comme je le mentionnais dans ma prière, je crois que Dieu a inspiré ce petit livre. 48 versets, c'est très, très court. Je crois que Dieu a inspiré ce petit livre, le livre de Jonas, et l'a placé dans la Bible pour nous aider à comprendre l'Évangile. Et certains d'entre vous, vous demandez, mais où est-ce qu'ils s'en vont? On est dans l'Ancien Testament, on est dans un livre prophétique qui ressemble plus à une fable qu'autre chose, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il s'en va avec l'Évangile? Bien, vous voyez, c'est définitivement un récit extraordinaire. Jonas, c'est pas une histoire de pêche normale. Vous connaissez tous un mononcle qui fait de la pêche, puis il sort des poissons absolument incroyables. Ces poissons sont pas comme ça, ils sont comme ça, puis ces truites ne mesurent pas 6 pouces ou 12 pouces, ce sont toutes des truites de 48 pouces de long, vous comprenez? Mais ce récit-là est un récit extraordinaire. Et le poisson, mes amis, le poisson là-dedans, il est pas grand comme ça, vous comprenez? Il est grand comme l'estrade, au moins. C'est tout un poisson. Mais en même temps, si vous connaissez bien l'histoire, personne ne va à la pêche au poisson. Ce serait plus juste de dire qu'il y a un poisson qui va à la pêche et qui pêche un prophète. Non? Ça ressemble plus à ça. Et lorsqu'on lit attentivement le récit de Jonas, on réalise que celui qui va à la pêche, en réalité, dans ce livre-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui va à la pêche. Parce que littéralement, il va repêcher le cœur d'un homme de Dieu, un prophète, qui est en train de s'endurcir et de s'éloigner de lui. Et il va repêcher cet homme qui est en train de s'égarer loin de l'Éternel. Dieu va repêcher, écoutez, 120 000 hommes, peut-être l'équivalent de la population du Grand Longueuil en comptant les femmes et les enfants. La grande ville de Ninive va se repentir. Ne serait-ce que pour un temps, la grande ville de Ninive va se repentir et se détourner de ses péchés pour venir à l'Éternel, pour craindre l'Éternel. C'est toute une pêche miraculeuse, vous pensez pas? 120 000 hommes, peut-être 380 000 hommes, femmes et enfants, c'est immense. C'est Dieu qui va à la pêche dans ce récit-là. Et Dieu est un pêcheur absolument extraordinaire et il fait des captures extraordinaires parce qu'il va pêcher des cœurs. Alors quand on y pense bien, l'histoire de Jonas nous parle du cœur de Dieu et du cœur de l'homme. À travers ce court récit qui est rempli de surprises, il y a des revirements incroyables qui nous surprennent à chaque coin, à chaque verset, presque à chaque nouveau verset. Il y a des surprises dans ce récit-là. Et nous voyons le cœur de Dieu qui est exposé et nous voyons le cœur de l'homme qui est là. Nous y voyons la grâce de Dieu qui poursuit les hommes rebelles pour les libérer de leurs péchés. C'est ça le récit de Jonas. C'est Dieu qui, dans sa compassion et dans sa grâce, poursuit les cœurs rebelles pour les libérer de leurs péchés, les libérer de leur folie, les libérer de leur aveuglement et les ramener à lui. Qu'il s'agisse de Jonas, l'homme religieux, ou des gens de Ninive qui sont des idolâtres, qui se livrent à toutes sortes de péchés abominables. Vous n'auriez pas voulu vivre dans cette ville. C'était périlleux pour votre âme et certainement pour votre santé. Voyez-vous, le livre de Jonas nous parle de la grâce de Dieu et tout le monde dans ce livre. Tout le monde dans ce livre a besoin de la grâce de Dieu. Jonas a besoin de la grâce de Dieu. Les marins qui sont sur ce bateau ont besoin de la grâce de Dieu. Et cette ville, chaque personne dans cette ville a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que je disais que le livre de Jonas a été inspiré par Dieu pour nous aider à comprendre davantage l'Évangile. Voyez-vous, l'Évangile, c'est le message de la grâce de Dieu pour des cœurs pécheurs, pour des hommes rebelles. Et l'Évangile est essentiel tant aux religieux, aux chrétiens, qu'aux non-chrétiens, qu'à celui qui ne connaît pas Dieu. L'Évangile est essentiel à celui qui connaît Dieu, tout autant qu'à celui qui ne connaît pas Dieu. Et ma prière, c'est qu'à travers les 4 prochaines semaines, vous soyez surpris par la grâce de Dieu. Revenons ensemble à Jonas. Et ce matin, ça va être une introduction qu'on va faire. Revenons à Jonas comme livre, premièrement. Comme récit assez fantastique, parce qu'il y a une partie d'entre vous qui... Vous êtes déjà plus en train de me suivre. Vous êtes déjà sur la défensive, vous êtes déjà un peu décroché. Comme un jeune homme me partageait lorsque je lui ai demandé de lire Jonas il y a quelques semaines, il lisait le récit, puis il disait, mais ça ressemble plus à une fable, à un conte pour enfants, à un film de Walt Disney qu'à un récit biblique, c'est vrai? Et donc, vous dites, Yannick va nous prêcher la parole de Dieu et il nous demande d'être réceptifs au message de Dieu à partir d'une fable ou de quelque chose qui ressemble davantage à une fable qu'à autre chose. Comment est-ce que je vais faire pour être à l'écoute de ce que Dieu pourrait me dire à travers l'histoire d'un gros poisson qui avale un petit monsieur et qui le crache sur la plage? Si ça peut vous rassurer, l'Église à travers tous les âges a lutté avec ces questions-là. Martin Luther, le grand réformateur du 16e siècle, Martin Luther lui-même disait qu'il trouvait plus facile de croire dans le fait que la mer Rouge s'est séparée pour laisser traverser le peuple d'Israël que de croire dans ce récit qui ressemble tellement à une fable. Martin Luther disait ça. Pour vous dire simplement que vous n'êtes pas les premiers à vous questionner si c'est des pensées qui vous flottent dans la tête depuis tout à l'heure. Mais en même temps, Martin Luther acceptait de prêter foi à ce récit parce que le récit est raconté comme un récit historique et parce que Dieu a décidé de le placer dans les Saintes Écritures. Et lorsqu'on prend le temps de bien lire l'ensemble des Écritures, lorsqu'on prend le temps de lire spécialement les Évangiles, on découvre à quel point ce récit est important, même aux yeux de Jésus. Jésus y voyait un événement historique aussi fantastique soit-il, aussi surnaturel puisse-t-il être, Jésus y voyait un événement historique. En fait, Jésus nous dit même que ce que Jonas a vécu lorsqu'il est dans le ventre de ce poisson est un signe qui annonce ce que lui-même allait vivre le Messie en mourant, en étant placé dans le tombeau et en ressuscitant 3 jours plus tard. Alors, mettons de côté un instant les doutes qu'un non-croyant pourrait avoir. La question que j'ai pour ceux qui sont croyants et d'autant plus pour ceux qui sont chrétiens, si l'histoire de Jonas n'est qu'une fable parce qu'elle est trop difficile à croire, la résurrection de Christ en était l'une. Qu'est-ce qui est plus difficile à croire? Qu'un homme a été crucifié, qu'il a été placé dans un tombeau et qu'il est ressuscité des morts? Ou qu'un homme a été avalé par un poisson, gardé vivant et déposé sur la plage. Voyez-vous, pour le non-croyant, ce récit-là est difficile à croire. Pour le non-croyant, c'est difficile à croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Pour le non-croyant, c'est difficile à croire qu'il a une âme. Pour le non-croyant, c'est difficile à croire qu'il a une éternité. Pour le non-croyant, ce qui est plus facile de croire, c'est que nous sommes des bêtes, nous naissons, nous vivons, nous sommes des bêtes merveilleuses avec un potentiel d'actes de générosité, de goût, d'imagination fantastique, de créativité géniale, mais tout s'arrête à la mort et poussière retourne poussière, c'est tout. Voilà ce qui est plus facile de croire pour le non-croyant. Et pour ces raisons-là, je comprends qu'il lui soit difficile de croire dans le récit de Jonas, de la même manière qu'il lui est difficile de croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Quand Paul ouvrait la bouche et commençait à prononcer le mot « résurrection », la foule était scandalisée. Non, là, c'est trop, là. Parle-nous de principes philosophiques, mais parle-nous pas de miracles, bonhomme. Mais je crois qu'il est fondamental pour le chrétien d'arriver à un terme avec cette question-là, parce que pour bien saisir vraiment toute la beauté du message de Jonas, il faut être prêt à accepter que ce récit-là s'est inscrit dans l'histoire. Et qu'il s'agit d'un événement historique, bien que surnaturel. Voyez-vous, ces Ninivites, nous dit Jésus, ces Ninivites qui se sont repentis sous la prédication de Jonas seront là pour juger un jour tous ceux qui ne se seront pas repentis sous la prédication de Jésus, parce que Jésus est beaucoup plus que Jonas. Ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas des personnages inventés, ce sont des âmes qui ont répondu à l'appel de Dieu qui se sont repentis. Alors, je vous encourage à méditer sur ces choses-là et à placer ce miracle-là dans l'ordre des autres miracles qu'on trouve dans les Écritures pour pouvoir saisir toute la richesse qu'il y a là pour vos vies, pour le salut de votre âme. L'espérance que j'ai dans l'éternité, ce n'est pas une fable, c'est quelque chose que je crois avec une ferme conviction. Cette espérance repose sur la résurrection de Jésus-Christ, un miracle 100 fois plus grand que celui de Jonas. 100 fois plus grand que celui de Jonas. Maintenant, le livre de Jonas a occupé une place extrêmement importante dans l'histoire de l'Église. Très tôt, les chrétiens ont compris que Jonas était un type, un signe de Christ. Très tôt, les chrétiens ont compris que ce que Jonas a vécu, le rôle qu'il avait à jouer, ce qu'il a vécu non seulement en allant dans le poisson, mais beaucoup plus que ça, par son message qu'il apportait, par le message de repentance. Jonas annonçait un jour un véritable messager qui poserait un véritable acte de salut. Et lorsqu'on étudie les peintures de l'époque romaine dans les lieux de culte chrétiens, ce n'est pas rare et régulièrement, on trouve des peintures qui illustrent Jonas placé côte à côte avec Christ dans le tombeau et Christ ressuscité. Les premiers chrétiens avaient saisi que le message de l'Évangile était présent dans le livre de Jonas. Et c'est très facile de trouver à travers toute l'histoire de l'Église, dans les arts, le récit de Jonas qui est illustré, pas simplement parce que c'est une bonne histoire à raconter à vos enfants, mais parce qu'il porte un message absolument extraordinaire. Le livre de Jonas a été placé là pour que nous saisissions davantage l'Évangile. Parlons de Jonas un instant. Parlons de Jonas, le super prophète. Parce que si vous connaissez Jonas simplement parce que vous avez là, c'est Jonas, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un anti-héros, c'est vrai? Un anti-héros, c'est cette espèce de héros qui l'est malgré lui, puis qui est corrompu, mais qui est appelé à faire des choses héroïques, puis qui est tellement humain que ça le disqualifierait pour être un Superman. Voyez-vous, Superman, c'est pas un anti-héros, c'est un Superman. Jonas, c'est pas un Superman. C'est un espèce d'anti-héros qui se disqualifie sur toute la ligne. Si c'est seulement ça qu'on a comme récit. Maintenant, les Écritures nous parlent de Jonas avant ça, dans le livre de Deux Rois. Mais avant de tourner, regardez avec moi le verset 1. Voici comment Jonas s'est présenté. Jonas 1:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, la parole de l'Éternel lui est adressée parce qu'il est un prophète qui recevait un message de la part de Dieu. Tournez avec moi maintenant, s'il vous plaît, dans 2 Rois, chapitre 14, verset 23. 2 Rois, 14, 23. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, il y a deux territoires, deux rois, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël, depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Voyez-vous, Jonas, en son temps, a été un héros national. Jonas a subi le test professionnel que tout prophète veut subir dans sa vie. Voyez-vous, la particularité d'un prophète, c'est qu'il reçoit la parole de l'Éternel, il annonce la parole de l'Éternel, et ce qu'il annonce s'accomplit. Jonas a vécu dans une période difficile où le royaume était divisé. Jonas a vécu dans une période difficile parce que les rois étaient corrompus, parce que Jéroboam était un roi corrompu qui ne dirigeait pas la nation vers Dieu, ne ramenait pas Israël vers Dieu. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, avait décidé de protéger tout de même le royaume et avait donné une parole à son prophète Jonas afin que Jonas annonce que Jéroboam allait consolider, affermir, protéger les limites du territoire pour protéger le territoire des calamités, des ennemis qui venaient et attaquaient et voulaient brigander, prendre d'assaut le territoire. Et la parole que Jonas a prophétisée s'est accomplie. Et du coup, Jonas est devenu un héros national. Jonas, du jour au lendemain, était l'homme qui ouvre la bouche au nom de l'Éternel et la parole s'accomplit, la chose s'accomplit. Jonas était un homme d'une stature absolument extraordinaire. À partir de ce moment-là, écoutez, c'est celui qui a dit « Ne paniquez pas, ce roi-là va rétablir les frontières, ce roi-là va consolider les frontières, Dieu ne nous a pas abandonnés. » Et la chose se fait. Ça, c'est Jonas. Il est au sommet de la gloire. C'est le succès professionnel par excellence parce que Dieu a placé un sceau sur son appel et sur ce qu'il avait donné à travers cet homme-là. Et au moment où on arrive dans le récit de Jonas, bien, Dieu a une nouvelle mission pour ce personnage-là, pour cette vedette nationale. Et Dieu lui dit, si vous acceptez cette mission, vous serez un peu surpris, mon cher Jonas. Parce que Dieu lui donne une mission extrêmement surprenante. C'est la première surprise du livre de Jonas. Dans ce livre-là, on va de surprise en surprise. Si vous ne connaissiez pas l'histoire et que vous la lisiez pour la première fois, attentivement, verset après verset, à chaque coin de rue, à chaque détour, vous seriez surpris, ne vous attendant pas à ce qui vient, aux motifs des gens, aux actions des gens, aux revirements de situation que Dieu va apporter. Et la première surprise qu'on a ici se trouve au verset 2. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Voyez-vous, du temps d'Israël, c'était une chose normale pour un prophète de recevoir une parole de l'Éternel pour Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu qui avait été choisi par Dieu. Dieu avait fait un pacte, une alliance avec Israël. Il avait promis de prendre soin d'eux. Et Dieu envoyait régulièrement ses prophètes pour les avertir, pour les rappeler à lui, pour les rassurer, pour les sécuriser. C'était une mission normale pour un prophète. Bien que ce soit un job tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est une mission normale de se faire dire, regarde, j'ai un message encore pour Israël, tu vas aller voir le roi, ça se peut qu'il t'écoute, ça se peut qu'il t'écoute pas, ça se peut qu'il te torture, ça se peut qu'il t'appuie, ça se peut que tu aies des cadeaux, ça se peut que tu aies un coup de pied dans le dos, on le sait pas. Mais c'était pas normal pour un prophète de se faire envoyer vers une nation païenne. Ça, c'était pas normal. Pour un prophète, et bien qu'il y a quelques prophéties qui concernent les nations païennes environnantes, il y a vraiment très peu d'appels à la repentance pour les païens des nations environnantes. Jonas se voit confier la mission d'aller à Ninive. Ninive était la capitale du royaume le plus puissant qui menaçait de devenir vraiment l'empire qui allait dominer toute la région. Et c'est effectivement ce qui allait se passer quelques temps plus tard. Ninive était la plus grande menace géopolitique de la région pour Israël, d'accord? Et Ninive vivait dans une impiété totale, dans une débauche complète, vivant dans le péché, dans l'idolâtrie, avec tout ce que ça impliquait comme culte et comme pratique et comme mode de vie et comme style de vie pour la ville. Jonas est habitué maintenant à ouvrir la bouche Et les gens veulent entendre. Parce que les gens disent, il y a encore une bénédiction pour nous. Puis Dieu lui dit, là, ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller dans cette grande ville qui adore des idoles et qui haït l'Éternel. Et tu vas aller dire à ces gens-là, un jugement s'en vient sur cette ville. Moi, le petit prophète d'Israël, de ce petit pays tout minuscule, je m'en viens vous avertir que mon Dieu se moque de toutes vos idoles et prononce un jugement sur cette ville. Le temps est court pour vous repentir. Écoute, tu passes chez ton notaire avant de partir sur une mission comme celle-là. Tu t'assures que ton testament est bien préparé. Si tu as tes enfants, tu as trouvé quelqu'un pour s'occuper de tes enfants, les probabilités de retour sont assez faibles, n'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est si on parle de la sécurité de Jonas. Si on parlait de ses sentiments, ce serait déjà autre chose. Quel intérêt Jonas a-t-il à ce que cette ville se repente? On pourrait imaginer un autre récit à Jonas. Il s'en va dans cette ville, il les avertit, et comme tous les païens ont le cœur dur, Dieu accomplit ses prophéties, il attend juste que son prophète se retire, et il détruit cette ville-là. Puis Jonas se débouche une bonne bouteille. Jonas se voit confier une mission assez incroyable, parce que Dieu a décidé qu'il voulait avertir Ninive. Voyez-vous, la première leçon spirituelle à tirer de Jonas, c'est que Dieu veut offrir un moment de grâce à Ninive. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand Dieu décide qu'il envoie Jonas à Ninive pour donner un avertissement à Ninive, Dieu est déjà en train de manifester sa grâce. Quand Dieu donne des avertissements, c'est qu'il est encore temps de se repentir. Quand je donne des avertissements à mes enfants, c'est qu'il est encore temps d'arrêter ce qu'ils font avant de se retrouver dans une grosse discussion avec papa. Dieu n'avait pas à envoyer son prophète à Ninive si Dieu avait arrêté son jugement et il avait décidé qu'il réglait le compte de Ninive. Tout ce qu'il avait à faire, c'était à s'exécuter. Mais Dieu manifeste déjà sa grâce parce qu'il décide d'envoyer son prophète auprès de cette ville qui méprise l'Éternel pour les avertir d'un jugement imminent, d'un châtiment sans équivoque qui s'en vient les frapper et pour leur dire qu'il est encore temps de se repentir. Si votre image de Dieu, à cause de votre culture personnelle, à cause des images qu'on se construit de Dieu, et celle d'un Dieu qui avertit puis frappe. Et celle d'un Dieu qui annonce constamment l'apocalypse et la fin du monde. Et celle d'un Dieu qui n'annonce que des jugements sévères. Et celle d'un Dieu qui vous parle avant de vous frapper tout simplement. Si votre image des Saintes Écritures, c'est que c'est un livre qu'on lit pour porter des fardeaux, pour porter des poids sur nos épaules, parce que plus on lit ce livre, plus on est chargé de jugements divins, vous avez besoin d'entendre la grâce qui est déjà en train de se manifester ici. La grâce est déjà en train d'apparaître au deuxième verset du livre de Jonas, parce que Dieu veut envoyer son prophète pour avertir et dire qu'il est temps encore de se repentir. Mais permettez-moi d'être un peu plus concret et peut-être de pointer mon gros doigt sur vous plus personnellement. Est-ce que Dieu vous avertit depuis quelque temps? Est-ce que Dieu vous avertit depuis quelque temps et votre vision de Dieu est tellement déformée que vous cherchez à fuir ce Dieu parce que tous ces avertissements, vous les voyez comme des châtiments, comme des jugements arrêtés qui ne vous préserveront, qui vont vous empêcher de goûter à la bonté de Dieu. Si Dieu vous avertit depuis un bout de temps, c'est parce qu'il veut vous faire grâce. C'est parce qu'il veut vous faire grâce. Est-ce qu'il vous avertit à travers sa parole? à travers un frère, une sœur, à travers des proches, à travers des circonstances dans votre vie? Est-ce que l'Esprit-Saint a appliqué, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moyens qu'il prend, à votre cœur, et vous savez au fond de vous-même que Dieu multiplie les avertissements? Entendez la grâce de Dieu qui vous appelle à la repentance parce qu'il veut vous libérer de ce don pourquoi il vous avertit, et il veut vous ramener tout près de lui. C'est déjà une première surprise de la grâce dans le livre de Jonas. Et ce matin, on va terminer avec une deuxième surprise. Verset 3. Verset 3. Dieu s'adresse à Jonas, et ce que Jonas fait, c'est qu'il se lève debout et il part à courir dans l'autre direction. Dieu s'adresse à son prophète, à celui qui connaît la voix de Dieu, qui connaît la parole de Dieu. Dieu s'adresse à son prophète et ce prophète se lève et fuit dans l'autre direction. Maintenant, ce que je veux faire avec vous en terminant ce matin, c'est vous inviter à méditer cette semaine. Dans le livre de Jonas, il y a une qualité au niveau de l'écriture, il y a une qualité littéraire absolument extraordinaire et il y a des mouvements dans le livre, d'accord? Un des mouvements qu'il y a dans ce livre-là, c'est que Jonas va refuser de faire la volonté de Dieu et donc va chercher à fuir loin de la face de l'Éternel. Dieu lui parle et Jonas va essayer de fuir loin de la face de l'Éternel. C'est une espèce de folie complètement bête. Comment fait-on pour fuir loin du Dieu omniprésent? Comment on fait ça? Si vous avez un truc, vous me le donnerez, j'ai pas trouvé. Et pourtant, chaque fois que nous refusons de faire la volonté de Dieu, c'est ce que nous tentons de faire. Nous tentons de fuir loin de la face de l'Éternel. Mais le psalmiste dit, « Où fuirai-je loin de ta face? » Partout où j'irai, tu y seras. Mais chaque fois que nous refusons de faire la volonté de Dieu, nous prenons la décision, consciente ou non, de chercher à fuir loin de la face de l'Éternel. Et un des mouvements qui va se produire ici dans le chapitre 1 et avec le début du chapitre 2, c'est que Jonas va descendre, descendre, descendre. Et dans la seconde, c'est bien illustré parce que Jonas, à partir du moment où il décide de fuir loin de la face de l'Éternel, va chercher à descendre à Tarsis. Puis Jonas va descendre au fond de la cale, dans une espèce de sommeil complètement abrutissant. C'est incroyable que cet homme-là réussisse à dormir là. Mais il est en train de sombrer dans une espèce de dépression spirituelle, d'entêtement, de folie. Et finalement, il va descendre au fond de l'eau. Alors, je vous invite cette semaine à méditer ces choses. Est-ce que dernièrement, Dieu vous a parlé et Dieu vous a appelé à venir à lui, Dieu vous a interpellé, mais vous avez pris la décision intérieurement, comme Jonas, de fuir loin de la face de l'Éternel? Si c'est le cas, probablement que spirituellement, vous êtes en train d'expérimenter cette descente que Jonas va expérimenter. Et de plus en plus, vous allez devenir comme Jonas, qui ne semble plus vivant, qui ne peut plus entendre la sagesse de Dieu, qui devient indifférent au péril des mariniers qui sont avec lui, qui est capable de dormir alors que Dieu est en train de remuer ciel et mer pour lui parler. Voyez-vous, il y a cette espèce d'engourdissement de l'intelligence, de cette folie qui rend complètement stupide et bête. Et c'est ce qui se produit lorsqu'on décide de fuir loin de la face de l'Éternel. Cette semaine, j'aimerais ça vous inviter à lire le livre de Jonas. 48 versets. Ça se lit en buvant le café chaque matin. Vous avez le temps de le lire quelques fois cette semaine. Un espresso, vous avez le temps de lire ça, d'accord? Vous ferez un allongé si vous en avez besoin. 48 versets. Ce que j'aimerais vous demander de méditer, d'accord? Et je vous laisse avec cette dernière idée-là. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de travailler plus fort à devenir des meilleurs chrétiens. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de travailler plus fort à devenir des meilleures personnes. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de travailler plus fort à devenir des gens plus pieux et plus saints. Ce que nous avons besoin, c'est de nous arrêter et de nous laisser bouleverser par la grâce de Dieu, qui poursuit les cœurs rebelles pour les bénir et les libérer de l'esclavage du péché, comme il va le faire avec Jonas ici. Amen. On va laisser ces choses dans la prière cette semaine ensemble, d'accord? Allons ensemble dans un mot de prière avant de chanter. Seigneur, je veux te bénir pour ce tout petit livre absolument merveilleux, Seigneur. Non seulement fantastique par son récit surnaturel qui peut troubler, c'est vrai, Seigneur, mais fantastique par le message absolument merveilleux qu'il contient. Et Seigneur, combien d'entre nous sommes ces religieux, Seigneur, comme Jonas? Combien d'entre nous sommes ces Ninivites profondément païens et rebelles? Combien d'entre nous, Seigneur, sommes ces mariniers qui vont des cultes à toutes sortes d'idoles? Nous avons tous, Seigneur, besoin d'être saisis et surpris par ta grâce. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs, de nous aider à être attentifs à ta voix. Et tous ceux qui sont interpellés par toi, qui reçoivent ces avertissements, ces appels à la repentance comme celui que tu as envoyé à Ninive, Seigneur, donne-nous un cœur docile pour les entendre. Donne-nous un cœur docile pour entendre ton amour, Seigneur, l'appel de ton amour qui nous appelle à la repentance. Seigneur, montre-nous si depuis quelque temps, depuis quelques mois, quelques années, nous sommes des Jonas en fuite, loin de ta face, abrutis de plus en plus, par cette fuite loin de toi et cet entêtement à ne pas vouloir marcher dans tes voies, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ton amour. Amen.